Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
David avec moi dans mon salon, donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, cette idée c'est vraiment de donner la parole à des voyageurs, à des expatriés, à des gens en lien avec l'ailleurs, des gens qui sont intéressés aussi au peuple et aux cultures du monde, ce qui est un peu ton cas. On va prendre le temps de te découvrir, je sais peu de choses sur toi. Devant moi là il y a un ordinateur, je vois qu'il y a quelques croquis qui ont été faits au Népal, donc on parlera dans cette émission du Népal, mais pas que. C'est le Népal qui nous a connectés, hein. C'est comme ça que j'ai entendu parler de toi la première fois. Quand j'y étais, on m'a dit que tu y étais aussi. Alors, je pense pas dire de bêtises en disant que t'es archéologue, mais on va prendre le temps de te rencontrer. Donc David, on va revenir ici un peu aux origines, parce que je crois qu'on partage les mêmes racines. On est tous les deux alsaciens, ou mieux encore, on est tous les deux colmariens. Donc David, à toi la parole.
Mais bonjour, David Andolfato, colmarien de naissance, colmarien de souche, comme toi, Manon, plus ou moins. Oui, je suis archéologue, qui est donc quand même une branche de l'anthropologie, hein, l'archéologie. Et, mais je fais aussi ce qu'on appelle l'ethno-archéologie. Donc c'est d'essayer de comprendre des phénomènes, des faits qu'on voit en archéologie, et de les comprendre en observant comment les gens pratiquent certaines choses, comme la religion, ou fabriquent des objets, pour essayer aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour essayer de mieux comprendre comment on les faisait, comment se passaient ces choses-là dans le passé.
Est-ce que c'est pas un peu un rêve de gosse d'être archéologue ? J'ai l'impression qu'on veut tous être astronaute, archéologue, ou c'est le genre de métier qui nous fait rêver déjà quand on est enfant, non ? Raconte-moi, pourquoi t'es devenu archéologue ?
Alors oui, c'est vrai, la plupart du temps quand je dis que je suis archéologue, les gens me disent « Ah, c'est le métier que je voulais faire », c'est la phrase qu'on dit, mais ça c'est... Tous les archéologues l'entendent. Moi, ça a commencé avec les dinosaures, comme beaucoup d'archéologues. Jurassic Park, je suis la génération qui était gamin quand Jurassic Park est sorti, le premier. Donc oui, Jurassic Park m'a mis sur la piste de l'histoire temps long. Et petit à petit, je me suis de plus en plus intéressé à l'archéologie, parce qu'on me disait que la paléontologie, il fallait être... chercheur scientifique, que c'était très lourd, qu'il fallait être bon en maths, ce qui n'est pas vraiment vrai, il faut plutôt être géologue. Et du coup, l'archéologie est venue assez naturellement au moment où il fallait choisir quelque chose, un cursus à la faculté, au lycée en fait, il fallait faire des choix. Et du coup, j'ai appris qu'on avait une fac d'histoire de l'art et d'archéologie à Strasbourg. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. À l'époque, l'histoire de l'art et l'archéologie étaient enseignées ensemble. Maintenant, il me semble que c'est séparé, il y a eu des réformes. Mais du coup, oui, j'ai d'abord voyagé en Inde étant enfant, et je me suis dit, je veux apprendre plus sur l'histoire de ce pays, et donc ça plus mon intérêt pour l'histoire, tout ce gloubi-boulga de choses qui m'intéressaient, ont fait que je me suis dit, j'ai envie de m'intéresser à l'histoire de l'Asie, et de l'Inde en particulier au début.
Donc c'est un peu un métier passion.
C'est complètement un métier passion. J'ai pas du tout l'impression de travailler quand je le fais. Enfin, on est fatigué à la fin et on a parfois des moments de creux, mais c'est clair que c'est clairement un métier passion. J'ai pas du tout la boule au ventre quand je me lève le matin pour le faire. C'est vraiment top.
Alors ma question va être hyper naïve. J'ai rarement un archéologue dans mon salon. Mais quand j'imagine ou quand j'entends le mot archéologie, je vois des pinceaux, je vois quelqu'un qui est assis par terre et qui gratte la terre, qui gratte le sol pour essayer de voir ce qui se passe dans les profondeurs, dans les entrailles de la terre. Qu'est-ce que c'est qu'être archéologue ? Comment tu l'expliquerais à un enfant qui te pose la question « David, tu fais quoi dans la vie ?»
Alors déjà, l'archéologie, c'est déjà beaucoup de recherches en amont. Il faut déjà trouver, avoir des pistes sur quoi on veut travailler, beaucoup de bibliothèques. Beaucoup de travail dans les livres, à rechercher la toponymie, donc la science des noms des lieux, Parce que souvent les noms des lieux vont vous indiquer déjà ce qui est, ils vous transmettent une sorte d'histoire déjà, il faut vraiment éplucher toute la littérature qui a déjà été produite avant vous sur un sujet donné, et même les sujets connexes, et en apprendre le plus possible avant d'aller sur le terrain, parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, du coup, on a les outils en main, on sait un peu mieux où chercher, que chercher, même si on n'est pas forcément assuré de trouver ce qu'on cherche, et puis qu'on trouve parfois d'autres choses. Donc dans le cadre de l'archéologie préventive, par exemple, où là, on va faire de l'archéologie parce qu'il y a un projet d'architecture, un projet d'aménagement. Là, on fouille et on sait plus ou moins les périodes qu'on va rencontrer ou le contexte, mais on a très peu d'idées et là, on va fouiller le plus vite possible. Et au contraire, on a l'archéologie programmée où là, on a vraiment le temps de faire un énorme travail en amont. Déjà trouver des budgets et puis aussi faire le travail de recherche bibliographique et une fois qu'on est sur le terrain, on a un peu plus de temps en général que dans des fouilles préventives et là on peut être amené à faire des très belles découvertes, comme en fouilles préventives d'ailleurs, il y a très belles découvertes en France notamment dans le cadre de l'archéologie préventive.
Et c'est quoi le statut de l'archéologue ? Tu es indépendant ? Tu travailles pour une boîte ? Comment ça se passe ?
Alors, je suis actuellement là, j'ai un contrat postdoctoral, donc c'est un contrat qu'on fait qui dure un an, voire parfois 4 ans, qu'on fait après avoir défendu sa thèse de doctorat, donc une fois qu'on est docteur. Donc là, je viens d'en finir un de ces contrats de 2 ans qui était avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Et actuellement, je suis consultant-chercheur pour l'université de Heidelberg, qui a un projet sur le patrimoine architectural du Népal.
Le Népal, on va y venir. Quelle est la porte d'entrée pour toi, le Népal ? C'est ton métier d'archéologue qui t'a amené là-bas ? C'est comment tu t'y es retrouvé ? Ton doctorat est sur le Népal ? Dis-moi-en un petit peu plus sur ton lien que tu as avec ce pays et cette culture.
Alors, le Népal, j'y suis arrivé de manière un peu détournée. D'abord, je suis allé en Inde. Mes parents m'ont amené en Inde en 96 quand j'avais 10 ans. Donc, énorme chance. Je ne les remercierai jamais assez. Et donc, je suis tombé amoureux de l'Inde. J'en ai vu aussi les côtés qui sont un peu parfois les moins plaisants. Mais du coup, je me suis vraiment imprégné de cette ambiance indienne, des odeurs. À l'époque, ma mère m'amenait aussi à des cours de Siddha Yoga et des choses comme ça. Donc, j'étais un peu déjà porté sur l'Inde, plus particulièrement. Et quand j'ai eu 19 ans, ma mère m'a donné, toujours ma mère, elle m'a donné de l'argent, un petit peu d'argent. Et elle m'a dit, c'est pour passer ton permis de conduire ou pour un billet d'avion. Et je passe mon code de permis de conduire lundi prochain. Donc, j'ai toujours pas mon permis de conduire. J'ai pris un billet d'avion et je suis allé en Inde avec le guide du routard des années 90 de mon père, qui lui était allé plein de fois déjà. Et donc forcément, rien n'était à la page dans ce guide, enfin surtout pour les logements. Donc je me suis retrouvé dans des petits taudis. Je crois que même que je me suis fait voler de l'argent. Enfin, j'ai eu toutes les embrouilles qu'on a pendant un premier voyage. Et je parlais pas l'anglais. Et j'ai eu un début de syndrome de l'Inde, c'est-à-dire de phobie de l'Inde, où je me sentais un peu emprisonné parce que je comprenais rien à ce qui se passait. Et j'étais un peu terrifié, on va dire, et j'ai vidé, dans un élan de folie, j'ai commencé à vider mon porte-monnaie de ce qu'il y avait dedans, et puis je suis tombé sur une carte de visite d'un népalo-tibétain, plutôt d'un népalais, mais d'origine tibétaine, que j'avais rencontré à Strasbourg, qui j'avais fait la visite de la cathédrale de Strasbourg, et il m'avait dit « Ah, si tu viens un jour au Népal, tu verras, on a presque la même chose ». Oui, c'est avéré qu'il n'y a pas du tout la même chose que la cathédrale de Strasbourg au Népal, mais je suis tombé sur sa carte de visite dans mon porte-monnaie et j'ai regardé, je me suis dit, ah tiens, oui, Nawang, il s'appelle, et j'ai vu Katmandou, Népal. À l'époque, j'étais tellement, tellement idiot, je ne savais même pas où ça se trouvait exactement le Népal, je savais que c'était en Asie, près de l'Inde, mais sans plus. Donc, je suis allé dans un cybercafé pour voir où c'était, puis j'ai vu que c'était juste à côté. Et j'ai immédiatement pris un billet d'avion et le lendemain j'étais à l'aéroport et j'ai déboulé à Katmandou le lendemain. Voilà.
Tu as quel âge dans ce premier voyage? Donc ça, déjà c'est très très fort, hein. Partir comme premier voyage en Inde, c'est pas évident parce que l'Inde peut être très déstabilisante. Tu parles de syndrome de l'Inde, j'aime bien que tu reviennes là-dessus. Et quel âge tu as à cette époque-là?
Alors c'est en 2007, donc j'ai 21 ans, 20-21 ans, ouais. Et le syndrome de l'Inde, il me semble que c'est le titre d'un livre qui a été écrit par comment est-ce qu'il s'appelle, un Régis Héros, il me semble, c'est pas Régis Héros, je sais plus son nom. C'était un monsieur qui était un psychologue, qui était un médecin des ambassades françaises en Inde. Et qui en fait s'occupait des Français ou des francophones un peu paumés et dans leur tête. Et du coup, ce monsieur a vu énormément de jeunes gens qui se retrouvaient dans des situations complètement folles, parfois en hôpital psychiatrique en Inde, et qui étaient dans des sortes de phases de délirium où ils pensaient parler sanskrit. C'était jamais du sanskrit, hein, bien sûr, c'était complètement du délire avec les quelques mots que ces gens avaient appris en route. Il y a une histoire qui m'avait frappé dans ce livre, donc ça s'appelle Les fous de l'Inde, le livre. Dans ce livre, il y a l'histoire d'une jeune femme qui est à Goa, il me semble, et qui veut absolument rentrer chez elle en France. Elle est tellement prise de panique, elle va rentrer chez elle et elle voit la mer et elle se dit bah, « je vais rentrer à la nage » et elle commence à nager. Donc elle est arrêtée par des gens qui se rendent compte que voilà de ce qu'elle est en train de faire. Mais voilà, donc ça c'est le genre, c'est le syndrome de l'Inde. Il y a le syndrome de phobie, de voir voir des espions, des gens qui vous veulent du mal partout. Et à côté, il y a aussi un aspect de ce syndrome qui est celui du sentiment océanique, l'impression de le sentiment de d'appartenir à un grand tout qu'on rejoint enfin, on est une goutte d'eau dans l'océan et on fait partie de cet océan et on est bien. Et ça, c'est un sentiment que j'ai retrouvé plus par la suite, que j'ai déjà retrouvé tout de suite au Népal et que j'ai retrouvé après par la suite en Inde, une fois que je parlais mieux l'anglais, et ce qui n'était pas difficile à l'époque, et un tout petit peu de hindi. Donc ça allait un petit peu mieux. Donc là, la perspective sur le pays avait complètement changé pour moi.
Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des Occidentaux? Pourquoi est-ce qu'on se sent atteint de ce syndrome? Qu'est-ce qui fait que l'Inde révèle une pathologie dont on n'a pas forcément connaissance ou conscience?
Alors, ce que je sais, c'est que ça touche pas forcément, ça touche surtout les gens qui viennent de pays privilégiés comme les nôtres, donc principalement les Occidentaux, mais il y a aussi le syndrome de Paris qui touche donc, voilà, qui touche les Japonais, les Coréens, j'imagine des Chinois aussi, qui sont choqués par l'insalubrité de Paris, la population à laquelle ils ne s'attendent pas, qui s'attendent pas à rencontrer, qui n'est pas celle qui est décrite dans Amélie Poulain. Je pense que c'est surtout parce qu'on a nos codes qui sont mis à l'envers, de voir des lépreux, de voir une odeur qui vous prend, qui est l'humidité, tout est tellement différent qu'en fait c'est comme si vous étiez dans un rêve où vous avez aucun repère et que vous comprenez pas ce qui vous arrive. Donc oui, ça peut arriver. Je pense que ça arrive surtout aux gens qui sont seuls. C'est pas forcément lié à la prise de drogue, c'est assez intéressant. C'était pas mon cas en tout cas, mais du coup oui, c'est le fait d'être isolé, de pas avoir de personne avec qui échanger et faire un petit retour réflexif sur ce qui vient de vous arriver dans la journée, Après, c'est pas du tout le genre de choses que je recherche, hein, voyager avec des gens, surtout en Inde, les gens qui voyagent, les Français qui font leur premier voyage, en tout cas, une tendance à critiquer beaucoup. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je recherche, moi, personnellement. Mais je pense que c'est ça qui déclenche ces syndromes, c'est de se retrouver face à quelque chose qu'on ne comprend pas. Et voilà.
Il y a un Français que j'interviewais dans cette émission où je lui posais la question « Décris-moi l'Inde en quelques mots ». Et il m'a répondu « L'Inde, c'est la preuve que le chaos fonctionne ». J'ai trouvé ça assez intéressant.
Oui, c'est un chaos. Hein. C'est de moins en moins le chaos dans plusieurs villes. Hein. Il y a des villes comme Delhi qui se modernisent énormément. Calcutta est très moderne. Il y a de moins en moins de chaos. Oui, c'est vrai que il y a un esprit très chaotique. Après, on a cette sensation de chaos aussi parce que ça traduit aussi, encore une fois, le fait qu'on ne vient pas de cette culture et que oui, la circulation, par exemple, la circulation routière ou piétonne peut avoir l'air chaotique, mais en fait, une fois qu'on y passe beaucoup de temps et qu'on a compris il y a des règles de cette circulation, une fois qu'on les a compris, ces règles, bah, tout, logiquement, en général, ça va bien. Je n'ai jamais eu d'accident au Népal de mon fait.
C'est vrai que souvent, le voyage oblige à déconstruire complètement certaines croyances qu'on peut avoir, qui peuvent être limitantes, et pour s'imprégner vraiment de ce qui se passe au niveau local et de réapprendre finalement tous les codes sociaux et culturels.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
David, dans mon salon, donc toi, tu es parti une première fois en Inde avec tes parents quand tu avais 10 ans, tu y es retourné à l'âge de 21 ans en mode solo. Donc là, à l'époque, t'es pas encore archéologue. Donc pourquoi t'es parti en Inde à 21 ans? Est-ce que t'avais déjà en tête, enfin, Inde et le Népal, donc du coup, hein, tu disais Inde, Népal. Quand t'es venu l'archéologie, et voilà, continue ton itinéraire de vie incroyable.
On a divergé. Mais oui, du coup, le moment où je suis arrivé au Népal, c'est un moment où j'ai eu un choc. En plus, venant de l'Inde, où je ne me plaisais pas à ce moment-là, le Népal avait en fait tous ces éléments culturels que je recherchais, que je n'avais pas forcément pu trouver en Inde, mais ça, c'était de mon fait, en fait. Au Népal, j'ai eu ce choc émotionnel. Je suis vraiment tombé amoureux c'est cliché de dire ça, mais je suis vraiment tombé amoureux du lieu et des gens chez qui j'ai tout de suite logé. J'étais tout de suite chez des amis, en fait, népalais et tibétains. Et je me suis dit, je veux faire en sorte que ma vie se passe autour de ce pays et pouvoir retourner le plus souvent dans ce pays. Le plus souvent possible et pourquoi pas lier mon intérêt que j'avais déjà pour l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art et essayer d'en faire quelque chose au Népal. Et du coup, j'étais déjà dans cette licence d'archéologie, d'histoire de l'art et archéologie à Marc Bloch à Strasbourg. On étudiait le seul enseignement sur l'Asie, c'était le sanskrit et l'archéologie du Gandhara, donc Pakistan, Afghanistan. Et du coup, j'ai persévéré, et puis on m'a dit d'aller à Strasbourg, à Paris, à la Sorbonne, où j'ai commencé des masters, master 1 et master 2 sur le Népal, sur l'iconographie bouddhique.
Qu'est-ce qui explique le fait que tu t'y sentes bien? Qu'est-ce qui explique que tu es, à 21 ans déjà, c'est jeune, se dire que waouh, je veux dans ma vie faire quelque chose en lien avec ce pays, ce peuple et cette culture?
Il y avait, c'est dur à définir, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce qui fait que je me sens bien ici. Je pense que c'est encore une fois, c'est cliché, mais c'est l'attitude des gens par rapport à moi, qui suis un blanc, donc forcément je suis exotique pour eux, donc ils vont venir vers moi, ou n'importe quel autre touriste qui voyage seul, ils vont venir vers vous et vont essayer d'initier une conversation, et c'est quand vous avez vécu à Paris ou ailleurs en France, c'est un peu plus difficile d'avoir. Enfin, on a plus rarement. On ne vient pas nous-mêmes vers des gens et puis on n'a pas de gens qui viennent vers nous-mêmes ou souvent ou alors si c'est le cas, on va se dire c'est un fou. Il y a quelque chose qui cloche avec cette personne. Elle me veut quelque chose. Donc il y avait vraiment ce côté humain qui m'a séduit. En quelque sorte. Et puis bah, les paysages, la montagne, j'adore la montagne, les petites montagnes qu'on a ici en Alsace et dans les Vosges. D'arriver devant des choses qui sont d'échelle tellement monumentale et dans lesquelles se sont développées des cultures aussi riches, aussi variées, que je me suis dit qu'il y avait tellement de choses à découvrir personnellement pour moi et aussi peut-être à faire découvrir à d'autres personnes et il se trouve au final qu'il y a aussi énormément de choses à faire découvrir aux Népalais eux-mêmes vu que l'archéologie en tant que discipline en est un peu à ses débuts dans ce pays et qu'elle s'est focalisée pas forcément sur les régions montagneuses donc ça, c'est plutôt ma spécialité maintenant, la montagne.
J'attendais à ce que tu me répondes, que tu sois la réincarnation d'un lama tibétain inconnu. Du coup, en retournant là-bas, tu as reconnu tout de suite le pays qui t'avait adopté. Mais non, en fait, c'est plutôt le statut d'expatrié hein, qui est un peu particulier. Finalement, quels que soient les pays du monde, tu es l'étranger. Et donc, l'étranger interpelle. Et c'est vrai qu'en Asie, notamment, il est très facile de créer le lien. Les gens viennent vers toi. Et je trouve que tu as un aura, une rayonnance, quelque chose de différent. Voilà, tu n'es plus dans une forme de normalité. Tu deviens la différence. Et donc, c'est beaucoup plus facile de rentrer en lien. Et on se sent exister. Aimer, enfin, y a quelque chose de très spécial hein, que oui, j'imagine tous les Occidentaux qui ont vécu ça se reconnaîtront dans ce statut qui est très particulier que peut apporter le fait d'être jeune et occidental à l'international.
Oui, c'est complètement ça. C'est vrai en fait. You nailed it. C'est le sentiment d'être aimé en fait par des gens qu'on connaît pas forcément, de voir de la bienveillance en fait. Je redis, c'est un peu cliché parce qu'il y a aussi des personnes pas recommandables en Asie, au Népal, comme partout. Mais il y a ce sentiment de bienveillance aussi parce qu'ils savent que vous êtes voyageurs, que vous avez besoin de soutien. Donc il y a une culture de l'accueil de l'étranger. Il y a aussi des dictons au Népal sur le fait qu'il faut accueillir des... Un visiteur qu'il faut le considérer comme un dieu, le visiteur qui reste visiteur, qui reste des plombes chez vous, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce sentiment de cette recherche de l'affection que peuvent vous apporter des gens. Parfois ça peut être un peu pesant aussi. J'ai rencontré des Népalais qui, une fois qu'ils avaient mon numéro de téléphone, m'appelaient à 6h du matin au Népal. Dans la langue népalaise, on ne dit pas bonjour, comment ça va, on dit tu es où. Tout de suite, on dit t'es où. À 6h du matin, en bon occidental que je suis, à 22 ans, j'ai rien qui me force à me lever à 6h. Donc à 6h, je suis dans mon lit. Donc voilà, quand vous avez tous les jours des gens qui vous appellent à 5-6 heures du matin pour vous demander où vous êtes, mais juste pour vous demander où vous êtes, bon, donc ça peut être un peu pesant parce que c'est parfois trop, mais c'est comme ça, il faut le prendre comme ça.
David, j'ai profité du fait que tu sois archéologue, historien, pour un peu rentrer dans, un peu mieux comprendre le Népal, ce qu'est le royaume du Népal. Beaucoup de gens y ont été, c'est une destination qui est très touristique, tu l'as dit, essentiellement pour les montagnes, camp de base de l'Everest, les Annapurna, le Manaslu, donc beaucoup de gens vont là-bas pour faire du trek, mais vont aussi là-bas pour... Il y avait les chemins de Kathmandu à l'époque, hein, tous les routards, 68ards, partaient à Manali pour aller fumer du hashish. Donc voilà, c'est une destination connue, très connue, courue par beaucoup d'entre nous. Mais si tu devais me présenter le royaume du Népal, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux revenir un petit peu dans l'histoire et nous parler de ces populations ? Qui sont-elles ? D'où viennent-elles ? Et ouais, nous faire un peu un pan historique. Commence là où tu veux dans la chronologie.
Ok, vaste projet. Alors c'est plus un royaume depuis 2006, il me semble. Jusqu'à 2006, il y avait une guerre civile entre des maoïstes et les royalistes, pour faire simple, pour faire très résumé, qui s'est soldée avec la fin de la monarchie. Et en fait, cette monarchie était en place depuis le début du premier millénaire, du deuxième millénaire de notre ère. Donc c'était la monarchie des Malas de la vallée de Katmandou. Mais ça, c'est juste la vallée de Katmandou. Et le mot Népal, en fait, c'est, le terme Népal, en fait, recouvre seulement la vallée de Katmandou telle qu'elle était connue, les Népa, Népapi, c'est les gens de Katmandou, les Néwars, donc l'ethnie qui soi-disant originelle de Katmandou. Je dis soi-disant parce qu'il y a, sans doute, il y a forcément eu des apports de l'Inde, d'autres régions du Népal et du Tibet, qui sont les régions adjacentes. Et c'était vraiment la vallée de Katmandou. Il faut s'imaginer une vallée fertile à la base, qui était en fait un lac. Donc ça, c'est dans les mythes et dans la géologie qui nous le prouve. Donc c'est une vallée fertile à la base et qui se trouve donc entre la plaine du Gange et le plateau tibétain. Donc c'est un endroit parfait pour y voir se développer une culture riche, une culture de marchands, une culture de personnes qui, à période historique en tout cas, pratiquent l'hindouisme et le bouddhisme. Alors pour revenir un peu en arrière, on a bien sûr un peu d'archéologie préhistorique au Népal, ça se passe surtout dans le Terai, donc qui est la bande des terres humides et plutôt planes qu'on retrouve à la frontière entre l'Inde et le Népal. Donc on a de l'archéologie préhistorique dans ces régions, ça consiste surtout en des outils en silex ou des éclats de frappes en silex. Et plus on avance, plus on a bien sûr de données. On sait qu'on a le site de Lumbini, bien sûr, qui est le lieu de naissance du Bouddha historique, qui est identifié comme le lieu de naissance du Bouddha historique. Il y a des détracteurs, il y a forcément des nationalistes indiens qui veulent que le Bouddha soit né en Inde, mais il semble qu'on ait quand même plus d'éléments pour attester que Bouddha soit né sur l'actuel territoire népalais. Le Népal n'existait pas à l'époque. Ça se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ, donc voilà, on n'est pas du tout dans ces limites étatiques actuelles. Et donc le site de Lumbini, qui est personnellement, actuellement, c'est pas un endroit que, si vous avez 2 semaines au Népal, je recommande pas d'y aller, parce que c'est pas forcément un endroit tellement, comment dire, impressionnant ou... Sauf si on est vraiment, si on est bouddhiste et dévot et qu'on veut vraiment voir où est né Bouddha, ou en tout cas le lieu qui est considéré comme ça, c'est qualifié par plusieurs, par de nombreuses personnes, dont moi, comme un Disneyland du bouddhisme, où tous les pays ont actuellement, les pays où on a une communauté bouddhiste, dont la France et l'Allemagne, ont construit des monastères. Donc c'est des monastères construits en béton armé, c'est assez moche, en règle générale. Ça fait un peu cheap à mon goût, mais et puis aussi ça a été très mal, comment dire, très mal géré. On a des étendues d'eau stagnantes, donc ça facilite la prolifération des moustiques et donc de la malaria. Donc voilà, c'est pas forcément le lieu que je trouve le plus sexy du Népal. Toujours est-il que c'est un des hauts lieux historiques du pays. Et donc un peu plus tard. Dans l'histoire népalaise, on a donc dans la vallée de Katmandou, cette vallée, elle se développe, on sait qu'elle se développe, les premières traces qu'on a, c'est avec un peuple ou une dynastie qu'on appelle les Lichavi, et qu'on retrouve dans les premiers siècles, visiblement, du premier millénaire de notre ère, et qui dure jusqu'au 8e, 9e siècle de notre ère. Après ces Lichavi, on a une sorte de période trouble. L'usage sombre, c'est un peu le Moyen-Âge, comme on le disait à la Renaissance en Europe, où on n'a pas, par contre là, on dit que c'est une période trouble parce qu'on n'a pas de données, donc on imagine qu'il s'est passé quelque chose, plusieurs événements, instabilité politique, et à partir du 12e, 13e siècle, on a beaucoup plus de données, on sait qu'on a plusieurs dynasties de rois, qui s'appellent donc leur nom dynastique, c'est les Malla, et on a 3 royaumes, en fait, qui se développent autour de 3 villes principales, qui sont Katmandou, Patan et Bhaktapur.
Et comment ça se fait, enfin, j'observe chez ceux qui vont voyager, ceux qui partent voyager au Népal, souvent un coup de cœur immédiat. Hein, beaucoup de gens reviennent du Népal et ont envie de soutenir, ont envie d'aider ce pays. J'ai l'impression qu'il y a un capital sympathie particulier pour cette région du monde.
Je pense que, ouais, on retourne sur des clichés, mais c'est des gens qui, quand ils rencontrent les Népalais sont en général très très avenants quand ils rencontrent un étranger, sont comment dire, ils sont en admiration devant des gens qui ont traversé la planète pour aller venir les voir eux. Donc ils auront toujours une attitude tellement bienveillante vis-à-vis de vous. Si vous voyagez avec des enfants, ils vont être fous de vos enfants parce qu'ils vont être différents. Si vous êtes blanc, bon, parfois j'ai des enfants qui me caressent les jambes ou les bras parce qu'ils voient mes poils noirs sur de la peau blanche. Ou si vous êtes noir, ils vont se dire c'est du chocolat. Enfin, il y a un intérêt vraiment pour ce qui vient de l'étranger. Et je pense que c'est ça qui fait que les étrangers qui s'y retrouvent tombent vraiment amoureux d'un pays où vous avez un cadre naturel. Je parle dans la montagne, il y a aussi de la pollution, hein, faut pas se faire des films, ou un cadre naturel magnifique et où vous avez une population qui est juste merveilleuse. En plus, on va dire qu'en Europe, on est quand même plus tourné sur les religions. On a une bienveillance vis-à-vis des religions hindoues et bouddhiques, plus qu'on a de la bienveillance envers l'islam. Malheureusement. Et du coup, ben, on a aussi, déjà, on est préparé, je pense, à apprécier cette culture. On a quelques codes parfois pour comprendre ce qui se passe. Donc, je pense que ça participe à tout ça. Alors qu'on a la culture gastronomique népalaise, elle n'est pas la plus évoluée du monde. C'est 1000 fois mieux en Thaïlande, par exemple, ou en Inde. Mais tous les soirs, votre riz et lentilles, vous comblera et vous aurez envie de serrer dans les bras les gens qui vous l'ont servi.
David, merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Merci David pour le partage de tes connaissances. À suivre une deuxième partie de cette émission dans le prochain épisode de Regarde ailleurs. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de l'émission sur Deezer, Spotify ou tous les sites de streaming en cherchant le podcast Regarde ailleurs.